Chapitre 7 La panne d'électricité de New York. Mes amis, ce soir nous allons commenter un article très intéressant, que j'ai vu quelque part, dans une revue, et qui s'intitule Doute, à propos de la panne d'électricité de New York. Nous transcrirons quelques alinéas de l'article en question. À 5h28 de l'après-midi, exactement, le 9 novembre 1965, se produisit la panne technique la plus grande et la plus inexplicable de l'histoire. À cette heure et à cette date, 12 millions de New-Yorkais souffrirent les conséquences d'une interruption totale dans l'approvisionnement de l'énergie électrique. Mais les habitants new-yorkais ignoraient que d'autres villes, en plus de la leur, étaient plongées dans les ténèbres faites fonctionner les lumières d'urgence, nous nous exposons à des vols. Appartenant au territoire nord-américain, les États d'Albany, Rochester, Boston et Providence, étaient dans l'obscurité. Au Canada, le Québec et Ottawa souffraient de la même défaillance technique. Dans une aire immense de 207 184 km², comprenant les États de Québec, Ontario, Vermont, une partie de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey et Pennsylvanie, aucun appareil électrique ne fonctionnait. 36 millions de personnes, c'est-à-dire plus de gens qu'il n'y en Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay et Uruguay ensemble, se retrouvèrent dans l'obscurité. Ascenseurs, feux de signalisation, radio, télévision, rotatives, cessèrent de fonctionner. Four électrique, réfrigérateur, mixeur, grille-pain, poumons d'acier et même les fraises de dentiste, ne marchaient pas. Dans les rues, des embouteillages effrayants se produisirent. La situation s'aggrava encore par le fait que les véhicules se trouvant sans carburant, ne purent s'approvisionner aux stations-service. Les pompes électriques ne fonctionnaient pas, et les automobiles furent abandonnées. Il y avait, dans le métro, presque 1 million de personnes dans l'impossibilité de prendre ce transport, je vis à 30 miles d'ici et mon fils est malade. Nous ne pouvons pas bouger d'ici. La ville était congestionnée à cause de la panne. Les avions qui allaient atterrir ou décoller se retrouvaient en difficulté, car les lumières des pistes s'éteignirent momentanément. Il nous faut atterrir avec urgence, il ne nous reste presque plus de combustible. L'anarchie allait croissant. Il y eut des morts par accident, des voleurs, des gens affolés par les ténèbres. La situation fut à ce point grave et imprévue, qu'au palais de cristal des Nations Unies, à New York, on dut suspendre les célébrations qui s'y déroulaient. Tandis que la panne d'électricité se poursuivait, les plus hautes autorités étaient conscientes d'affronter une dangereuse altération de l'ordre. Les nouvelles du soir indiquaient que la panique et le désordre augmentaient dans les rues et le chaos. Seuls des immeubles comme celui-ci, avec un groupe électrogène propre, ont de la lumière, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais, ce qui est vraiment grave, c'est que, uni à la panique et au chaos de ce moment, dans cette zone immense de 207 184 km², les systèmes de radar ne fonctionnent pas. Ils sont aveugles. N'importe quel projectile pourrait passer en ce moment dans notre ciel. Nous ne pourrions pas détecter sa présence. Pire encore, nous ne pourrions même pas envoyer un de nos projectiles téléguidés pour l'intercepter, car les boutons de commandement, qui transmettent l'ordre de décoller, fonctionnent à l'électricité. C'est inutile, cet immense appareil ne sert à rien. Messieurs, nous sommes l'un des pays les plus puissants de la Terre, nous dépensons chaque année des milliers de millions de dollars en armement et renforcement de nos systèmes de sécurité, mais, face à une situation comme celle-là, nous sommes impuissants. Cette civilisation, tellement technique et puissante, qui est la nôtre, a un talon d'Achille, une grande faiblesse, l'électricité. Vous êtes-vous demandé à quoi nous sert le radar, les projectiles téléguidés, le télégraphe, le téléphone et la télévision? À rien. Absolument à rien. Évidemment, le général a raison, nous ne pouvons transmettre aucun ordre. Nous ne pouvons recevoir aucune information. C'est la faillite de notre pouvoir militaire et industriel. Tout est paralysé. Messieurs, s'il vous plaît, un peu d'intelligence, il n'est pas de trop, que je vous rappelle que le gouvernement, auquel nous appartenons tous, est totalement conscient de la terrible importance de l'électricité. Dans chaque centrale électrique, il y a de grands cerveaux électroniques, et des ordinateurs chargés de veiller sur chaque centimètre des grands câbles, qui conduisent le fluide électrique. Quand un des cerveaux électroniques découvre, par exemple, qu'un des câbles est survolté, et qu'il est en danger de fondre, la ligne 5 est en danger automatiquement, cette charge est répartie dans les autres ramifications du système. La surcharge a été répartie entre les lignes 7 et 8. Les ordinateurs signalent, aussi, quand un fusible a sauté, à quelle ligne il appartient, et l'endroit exact de la panne. C'est le troisième câble de la branche d'Albany. La panne se situe entre la tour 17B et la 18B, nous y allons immédiatement. Et même, si une zone arrivait à produire une panne qui n'aurait pas été captée par les centrales électriques, cette zone serait isolée des autres. Pour ne pas endommager d'autres systèmes électriques, nous avons isolé la zone sud de Montgomery, et nous procédons à la réparation. Chaque compteur, chaque fusible, chaque interrupteur et chaque branchement sont soigneusement révisés à chaque instant. Je suis sûr que d'un moment à l'autre, cette panne va être réparée, et que nous aurons de nouveau de l'électricité. La panne ne dure que depuis une heure. Ces calculs optimistes ne furent malheureusement pas confirmés par la réalité, mon fils. Mon fils. Je ne l'ai pas vu dans le noir, il est sorti en courant de l'impasse. La grande panne dura exactement 12 heures, pas un dixième de seconde de plus. Franck. Viens. Nous avons de nouveau de la lumière. Les chronographes les plus précis, en recevant la charge électrique, n'eurent pas à être remis à l'heure. Pour continuer à indiquer l'heure avec une grande exactitude, il marque l'heure qu'il est. Nous devons exiger une enquête. Aussi mystérieusement que la lumière s'était coupée, elle commençait maintenant à passer par chaque câble. Une panne d'électricité d'une telle durée inusitée, qui curieusement avait duré 12 heures, provoqua l'incertitude dans un grand secteur d'Amérique du Nord. Que les responsables soient désignés. Des citoyens communs et courants, des chefs d'entreprise, des journalistes, demandèrent au gouvernement des États-Unis une explication sur ce qui s'était passé. Des télégrammes continuent à arriver. Monsieur, on exige de nous de donner des explications sur cette affaire. Ici s'achèvent les mots de l'article en question. Il ne fait aucun doute que quelques hommes extraterrestres furent capables, tout seuls, de paralyser tout le système électrique de New York et de nombreuses villes, comme on l'a déjà dit. Nous voyons donc la différence fondamentale entre l'homme et l'animal intellectuel. Il est évident que tous les gens considèrent qu'ils sont dans le royaume animal ou humain. Pour être plus clair, Diogène, avec sa lanterne, alla par les rues d'Athènes, avec une lampe allumée en cherchant un homme, et il ne le trouva point. Pilate présenta le Christ en disant ex homo, voici l'homme. Comme il est difficile d'atteindre l'état humain, pourtant tous se croient des hommes. L'homme est le vrai roi de la création, et il peut faire des merveilles aussi grandes que celles de la panne de New York. Nous sommes sûrs qu'une demi-douzaine d'hommes pourraient paralyser, non seulement le système électrique des États-Unis, mais en outre, toutes les activités du monde entier. Une demi-douzaine d'hommes authentiques, légitimes et véritables, pourraient s'emparer de la planète Terre, sans un seul tir, et ce, en quelques minutes. 1. Comment se pourrait-il qu'une demi-douzaine d'hommes pourraient parvenir à cela? Répondre aux distinguées demoiselles, vous vous étonnez de mes paroles. Il est nécessaire que vous compreniez que l'homme authentique est le roi de la création. Un seul homme pourrait, en quelques secondes, désintégrer la planète Terre, la transformer en fragments qui tourneraient autour du Soleil. 2. Ce genre d'homme pourrait réaliser tant de choses, sans être autoréalisé? Répondre quand allez-vous me comprendre, distinguée dame. L'existence d'un homme n'est pas possible sans l'autoréalisation. Ce qui se passe, c'est que vous faites un mauvais raisonnement, vous supposez que les animaux intellectuels, qui peuplent la surface de la Terre, sont des hommes. Voilà votre erreur. Il y a, dans l'animal intellectuel, des possibilités surprenantes. L'homme oncule rationnel, communément appelé homme, est une chrysalide, à l'intérieur de laquelle peut se former l'homme. M'avez-vous compris? 3. Et que pourrions-nous faire, pour que l'homme se forme dans cette chrysalide? Répondre au. Distinguée demoiselle, je ne saurais vous donner ces explications dans ce livre élémentaire. Venez à nos études gnostiques, étudiez nos livres, lisez le mariage parfait, le mystère de la floraison d'or, les trois montagnes, le Parsifal dévoilé, etc. 4. Alors, d'après ce que vous nous dites, ces vrais hommes seraient dangereux? Répondre écoutez, noble dame, ces hommes, légitimes au sens le plus complet du mot, réellement, ne sont pas aussi dangereux que vous le supposez. S'ils avaient voulu faire sauter la planète Terre en morceaux, ils l'auraient déjà fait. S'ils avaient voulu nous envahir, et nous mettre en esclavage, il y a des siècles qu'ils auraient pu le faire. Les hommes authentiques n'assassinent pas, ne mettent pas en esclavage, n'asservissent pas les nations, ni les mondes. Il arrive qu'ils nous rendent visite pour nous aider, ils sont compatissants. Ils nous assisteront à l'heure suprême du grand cataclysme. Ce sont eux qui, après la terrible catastrophe, qui nous attend et quand la Terre sera de nouveau en condition d'avoir de la vie, fondront sur cette planète, alors transformée, une nouvelle civilisation et une nouvelle culture. Les animaux intellectuels s'étonnent du fait concret que ces extraterrestres ne s'ajustent pas trop à notre milieu, ni ne se soumettent à cet ordre de choses caduque et dégénéré 5. D'après ce que vous nous dites, il n'y a pas d'homme véritable sur cette planète? Ceux-ci seraient tous extraterrestres? Répondre écoutez, dans notre monde, il y a des hommes aussi. Mais, il faut les chercher avec la lampe de Diogène, il est très difficile de les trouver. Pourtant, vous voyez que tous prétendent être des hommes. 6. Pour telle raison devrions-nous être un homme authentique? Répondre écoutez, chère demoiselle, de la chrysalide sort le papillon qui s'envole, joyeux, à la lumière du soleil. De même, de la chrysalide humanoïde, peut sortir l'homme authentique, légitime et vrai. Voilà le dessein originel de la divinité. Seriez-vous contre les desseins de Dieu? Dieu veut que chacun de nous se convertisse en roi de la création. Ainsi, seulement, nous pourrons entrer au paradis. C'est pourquoi Jésus-Christ vint au monde, il se proposa de nous aider, il voulait que chacun de nous soit un roi de la nature. Vous comprendrez maintenant la raison pour laquelle nous devons nous préoccuper. 7. Qu'est-ce qu'a bien pu être, réellement, à l'origine de la panne de New York? Répondre avec le plus grand plaisir, je répondrai au monsieur qui m'écoute, il a été entièrement prouvé, et de manière officielle, que la panne de New York a été provoquée par un vaisseau cosmique extraterrestre. À cause de cet événement, le gouvernement des États-Unis a créé un département scientifique dans l'évidente intention d'investiguer l'affaire des soucoupes volantes. Il est nécessaire de rappeler que, quelques moments avant cette panne, deux disques volants furent poursuivis par deux avions de chasse des États-Unis, armés de projectiles de grande puissance, mais, l'un des deux bizarres appareils, se perdit dans l'espace infini, tandis que l'autre descendit sur la centrale électrique de Syracuse. Vint ensuite la panne, et ceci est entièrement prouvé. Les avions armés de fusées ne furent d'aucune utilité, les meilleures armes des États-Unis se révélèrent inutiles. La force aérienne des États-Unis a maintenu, contre les vaisseaux extraterrestres, une guerre sans quartier, depuis plus de deux décades. Ils créèrent des procédés dénommés AFR-2002, assignés par JANAP-146, par lesquels ils interdisent à tous les pilotes, militaires ou civils, de faire la moindre déclaration en public sur ce qu'ils appellent les OVNIS, sous peine de graves sanctions. Ils craignent indubitablement d'affronter la crue réalité 8. Quelle fut la raison de cette panne? Quel en fut le message? Répondre je vous répondrai, monsieur, écoutez, s'ils avaient voulu réduire en cendres la ville de New York, ils auraient pu le faire, en quelques secondes, mais ils ne sont pas pervers. Il regarde cette race d'animaux intellectuels avec une compassion infinie. On les poursuivit avec des avions de chasse, on voulut les détruire, on ne leur a pas offert, certes pas, une belle bienvenue, on ne les reçut pas comme des frères. Pourtant, la seule chose qu'ils firent, pour démontrer à l'animal intellectuel, l'état d'inconscience et de faiblesse où il se trouve, ce fut de leur donner une démonstration en paralysant tout le système électrique de New York, dans le but de faire comprendre à ces animaux rationnels l'état honteux où ils sont. À cette heure-ci, l'animal rationnel, après semblable événement, devrait être en train de s'étudier lui-même, en train d'éliminer ses passions et ses vices, en train de se purifier et de se sanctifier, repenti. 9. Vous considérez que nous les êtres terriens, l'avons compris de cette manière ? Répondre, cher ami, il est évident que ce royaume d'animaux rationnels, a la conscience endormie, et que, pour cela, il est loin de comprendre l'enseignement qu'on lui a donné. Les animaux rationnels ne sont pas des hommes, mais ils croient qu'ils soient omnipotents, puissants, super civilisés, super développés, etc. 10. Pourriez-vous nous expliquer scientifiquement ce qu'ils ont fait pour produire la panne ? Répondre, oh. Cher monsieur, il s'agit là d'une science de type électrique supérieur. Je crois fermement qu'il est possible de dévier l'électricité en orientant le courant d'une autre manière, il est possible d'altérer les polarités, inverser des charges. Il est ostensible qu'alors, n'importe quelle ville se retrouve dans les ténèbres. Étudier ceci soigneusement et exprimer publiquement ce qu'on a appris, reviendrait à remettre les armes de l'homme aux animaux rationnels. Que feraient-ils ces animaux, avec ce type de connaissances ? La main sur votre cœur, répondez à ma question, compris ?